Radio Tamani, voici nos informations en français.
Lundi 26 septembre 2022, bonsoir à tous et bienvenue dans ces 18h, les titres de ce journal. Les propos du Premier ministre par intérim à l'Assemblée générale des Nations unies ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique. Si certains s'y reconnaissent, d'autres parlent de discours va-t-en-guerre. Les attaques contre les autorités régionales sont récentes ces derniers jours. Après celles contre le convoi du gouverneur de Kaï, c'est celui du juge de Douanzin qui a été ciblé ce week-end. Bilan est mort. Un prêt pour les étudiants boursiers crée un différend entre l'AM et le Centre national des œuvres universitaires CENU. Si pour le CENU, ce prêt sera utile pour les étudiants, l'AM estime qu'il faut juste donner les bourses en avance. À la présentation de ce journal, Adama Amadou Haïdara, à la mise en onde de Salim Diouara. Une fois de plus, bonsoir à tous et bienvenue. Le discours prononcé par le Premier ministre par intérim à l'Assemblée générale des Nations unies n'est pas passé inaperçu à Bamako. Toutefois, le regard des partis politiques sur cette intervention est différent. Si certains se reconnaissent dans les propos du colonel Abdoulaye Meïga, d'autres en revanche ne les partagent pas. Ces derniers trouvent que c'est un discours va-t-en-guerre. Suivant ce reportage de Moussa Malé Sissoko, rendu ici par Aboubakrine Aga Mohamed Diniatara.
Des réactions des formations politiques aux propos du Premier ministre par intérim sont divergentes. Les partis pour le renouveau et le développement PRD se retrouvent dans ces discours. Sa présidente, Assetou Sangaré, soutient que l'allocution du colonel se veut une rupture dans la pratique et la vision du Mali de demain.
Nous assistons à un changement du monde. Les cartes du monde sont en train d'être redistribuées. Le Mali ne doit pas rester en marge de ça. Après tout ce que nous avons vu dans les 12 dernières années, mais nous ne pouvons plus continuer sur cette voie. Il faut reconnaître qu'on a vu les limites et les résultats de cette voie. Donc le PRD se reconnaît dans ce discours.
Pourtant, ce point de vue n'est pas partagé par l'Action républicaine pour le progrès, ARP, un autre groupement politique. Les partis estiment que l'intervention du chef du gouvernement était agressive et peu porteuse de défis du Mali. Zeynep Evelyn Diack, vice-présidente de l'ARP.
Nous ne nous retrouvons pas dans les propos du PM parce que nous pensions qu'il allait aller plutôt exposer les problèmes sécuritaires actuellement auxquels nous sommes confrontés. C'est des gros discours, oui, patriotiques. Pour certains, pour nous, ce n'est vraiment rien à voir avec le patriotisme. On est parti pour exposer des problèmes qui concernent notre pays. On n'est pas parti pour dénigrer telle personne. On voudrait que les autorités sortent de cet état d'esprit qui n'apporte rien à un état.
À noter que les autorités ivoiriennes, ni celles du Niger et de la France interpellées dans les discours du Mali, n'ont pas encore réagi officiellement à l'intervention du Premier ministre par intérim le 24 septembre dernier.
Ce discours a été un grand soulagement pour tous les Maliens du monde entier, affirment certains à Bamako. Ils estiment que l'allocution du Premier ministre par intérim est une preuve de la renaissance d'un nouveau Mali. Écoutons la réaction de quelques-uns ici au micro d'Aboubakrine Aga Mohamed Diniatara.
C'est un discours qui reflète la vie des Maliens. Nous en sommes très fiers, puisqu'il fallait dire la vérité et à la France, et à la Côte d'Ivoire, et au Niger, qui ont tout le temps critiqué le Mali.
Le discours a été impeccable et c'était bien. C'était notre droit aussi de tenir un tel discours. Il a vraiment passé le message qui est en moi. Donc je suis fière d'être malienne à cause de ce discours. Ce n'est pas le Mali seulement, c'est un discours qui a animé toute l'Afrique.
De ce discours, j'ai nourri un sentiment malien, un discours qui a galvanisé le peuple et je suis fier de notre Premier ministre. Et ensemble, je pense que nous pouvons relever le défi de la transition, mais aussi le défi d'un Mali nouveau.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Le Premier ministre par intérim s'est exprimé sur les réformes politiques et institutionnelles en cours au Mali, toujours à l'occasion de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Le colonel Abdoulaye Meïga indique que cette démarche traduit les aspirations profondes et légitimes des Maliens à refonder l'État malien pour une stabilité institutionnelle durable au Mali. Moussa Malé Sissoko.
Le Mali se trouve dans un processus de transition qui prendra fin le 26 mars 2024 par le transfert de pouvoir aux autorités élues. Cette déclaration est du chef du gouvernement par intérim à la tribune des Nations Unies à New York. Dans cette perspective, il a égrené quelques avancées majeures qui ont été réalisées. Il s'agit notamment de la promulgation de la loi électorale, la création de l'autorité indépendante de gestion des élections EIGE et la mise en place d'une commission chargée de la rédaction de la nouvelle constitution. Pour Abdoulaye Maïga, ces réformes permettront d'améliorer la gouvernance et toutes les dispositions seront prises pour que la démocratie malienne soit la plus enviée au monde, a-t-il assuré. Ainsi, il ajoute que la réalisation de ces vastes chantiers exige du gouvernement de poursuivre et d'intensifier les efforts en vue de l'amélioration continue de la situation sécuritaire dans le pays et de la protection des personnes et de leurs biens.
Les attaques ciblées deviennent récurrentes dans le pays, comme annoncé dans le sommaire. Il y a quelques jours, l'escorte du gouverneur de Kay a repoussé une attaque des hommes armés. Et ce samedi 24 septembre, c'est le convoi du juge de Douanzan à Kitambamako pour Douanzan qui a été attaqué. Son garde-corps a été tué lors de cette attaque suite à des échanges de tirs contre les assaillants, affirment des sources. Selon des analystes sécuritaires, il faut déployer les forces de sécurité et de défense sur tous les axes. Alfousseini Guindo, président de l'association Union d'Ogonpul, est joint ici par Sita Sidibé.
Il faudrait d'abord rappeler à l'opinion publique qu'il n'y a pas de situation de sécurité totale. Quelle que soit la sécurité, il y a toujours des cas isolés qui détériorent ce climat de sécurité. Donc ceci étant, l'attaque du juge de Douanzan vient s'ajouter à la vague d'attaques qui a eu lieu dans la région de Douanzan il y a 10 jours de cela, notamment entre Sévaré et Douanzan. C'est pour dire que cette situation montre à quel niveau encore il n'y a pas de la sécurité totale. Mais il faudrait parler plutôt aussi des systèmes à mettre en évidence pour la sécurisation, y compris même des corps civils, pas seulement que des représentants de l'État. Donc sur ce, il faudrait vraiment penser à la mise en vigueur des patrouilles des forces armées maliennes sur ces axes routiers-là. C'est très important. 2, 4 ou 3 pick-up qui vont tout le temps des va-et-vient sur ces axes-là afin d'effrayer les forces du mal.
Un prêt pour les étudiants boursiers, c'est le sujet qui crée un différend entre l'Association des élèves et étudiants du Mali et le Centre national des œuvres universitaires. Le mécanisme consiste à prêter avec intérêt une somme d'argent comprise entre 20 000 et 200 000 francs aux étudiants boursiers. C'est une initiative du CENU avec son partenaire Sama Money. L'AM refuse catégoriquement le projet pour le moment. Le pourquoi avec Abdoulaye Touré.
Cette offre de notre partenaire Sama Money a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des étudiants, affirment les responsables du Centre national des œuvres universitaires. Le CNU précise également que sa souscription est libre et volontaire. Daniel Koné, chef service allocation financière au CNU.
Il se peut qu'un étudiant soit dans une situation d'urgence, par exemple un cas d'accident, un cas de maladie. Il a besoin de se loger immédiatement, de faire son inscription. C'est dans ce sens que ce prêt-là a été mûri par Sama.
La coordination nationale de l'AIM rejette catégoriquement cette offre. Son secrétaire administratif pense que d'autres solutions doivent être trouvées pour améliorer les conditions de vie des étudiants. Mamadou Meiga, secrétaire administratif du bureau national AIM.
Mais ces institutions-là pouvaient faciliter la tâche aussi en donnant les bourses en avance des étudiants sans pour autant demander en retour des intérêts.
Par ailleurs, le comité de l'Association des élèves et étudiants de la Faculté des lettres, langues et sciences du langage observe une grève illimitée depuis le 25 juillet dernier. Il réclame, entre autres, la réouverture des inscriptions pour les bacheliers de 2021 ou encore la non-rotation des bus scolaires.
Plus de 400 maisons écroulées et des bétails emportés, c'est le bilan de l'inondation survenue la semaine dernière dans le village de Sin, dans la commune de Djéné. Selon les autorités communales, tous les habitants de Sin sont actuellement sur les digues. Le deuxième adjoint au maire indique que la population de Sin avait alerté les autorités sur un risque d'inondation. Au même moment, le village de Souala est aussi submergé d'eau. Lalé Tangara.
Assi, dans la commune rurale de Djéné, le village entier est sous les eaux. Selon le président de la jeunesse du cercle de Djéné, Yeya Saro, le village n'est accessible que par pirogue car l'eau a atteint la hauteur d'1,50 m. Il affirme que l'aide apportée à la population est insuffisante.
Aujourd'hui, toute la population est sur les digues. Actuellement, il n'y a personne dans le village, c'est complètement inondé. L'eau est jusqu'au niveau de la poitrine. Beaucoup de maisons sont tombées. On parle plus de 400 maisons qui sont vraiment tombées dans l'eau. C'est vraiment une catastrophe.
Malgré les différentes dispositions prises par les habitants et les autorités communales, le village a été submergé par les eaux, regrettent les responsables de la mairie de Djéné. Toutefois, ils disent être à pied d'œuvre pour aider les sinistrés. Abdrahamane Damélé, deuxième adjoint au maire de Djéné.
S'agissait de faire des diguettes. Nous avons envoyé une quantité importante de sacs et de sacs. stable pour pouvoir renforcer les brigades. Au-delà de ça, la mairie n'étant pas les moyens, nous avons alerté les bureaux responsables au niveau régional pour que des dispositions puissent être prises.
Le deuxième adjoint au maire ajoute que le village de Soala a été aussi inondé ce dimanche vers 3h du matin. C'est le mini pont qui alimente les casiers rizicoles de Djéné qui a été endommagé par les eaux de pluie, explique-t-il.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Un tour dans les régions à Gao, la 6e édition de la Coupe du maire de la commune a été lancée hier à Wabaria. Le match d'ouverture a opposé le village de Wabaria à Arabou. Pendant un mois, les 13 villages de la commune de Gounzouré vont s'affronter. Selon le maire de la commune, l'objectif de la compétition est de renforcer la cohésion sociale entre les villages. Plus de 200 jeunes filles et garçons de la ville de Sens ont procédé ce dimanche à une journée de salubrité à l'hôpital de Sens, selon les responsables de la jeunesse. L'objectif est de consolider la cohésion sociale entre les populations et assainir la cour de l'hôpital afin de promouvoir la santé des malades et de leurs accompagnants, surtout en cette période hivernale. Le médecin du district a remercié les jeunes et invité les autres organisations à faire de même, rappelant que c'est la deuxième fois que cette action est menée à l'hôpital de Sens. Le collectif des jeunes volontaires de Bafoulabé a mis à profit ce 22 septembre pour faire un don de sang au CESCOM de Bafoulabé. Pour les responsables du collectif, c'est une façon pour la jeunesse de commémorer cette journée en sauvant des vies. Plusieurs poches de sang ont été collectées. Les responsables sanitaires du CESCOM ont salué l'initiative et souhaité la pérennisation de ce acte. Ainsi se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Toutes ces informations, vous pouvez les réécouter à tout moment sur notre site web au www.studiotamani.org. Le sceau de l'État, les armoiries de la République, la devise nationale, le drapeau et l'hymne national constituent les symboles de la République du Mali. Chacun de ces symboles est chargé de sens et porteur de valeur, déclarent des magistrats. Ils ajoutent qu'un bon citoyen se doit de les connaître, de s'imprégner de leurs valeurs pour pouvoir les respecter convenablement. Dans le cadre de la célébration de la 62e fête de l'indépendance du Mali, ce 22 septembre 2022, Mamadou Sekou a tendu son micro à Mohamed Maouloud Najim, directeur national des affaires judiciaires et du sceau.
Le sceau comporte comme signe distinctif le lion. Il comporte comme signe distinctif également un épi de mil, un épi de riz, une tête de bœuf. Et ces signes-là ont chacun un sens.
Revenons aux armoiries. On voit une sorte de mosquée, des flèches et des arbres. On voit aussi le soleil levant. Ça doit avoir un sens tout ça, n'est-ce pas?
La mosquée renvoie principalement non pas à la religion musulmane, contrairement à ce qu'on a tendance à penser. La mosquée renvoie plutôt au style architectural de notre zone culturelle, de notre espace culturel si vous voulez. On parle souvent de style architectural soudanais ou soudanien. La mosquée là est représentative de ce style architectural à travers lequel, en principe, tout Malien doit pouvoir se reconnaître. C'est un symbole également que nous montrons à la face du reste du monde pour dire voilà ce qui nous caractérise nous du point de vue architectural. Parce que la mosquée de Djéné est effectivement un chef-d'œuvre architectural. C'est reconnu partout. Quant aux arcs qui sont placés l'un en face de l'autre, ces arcs-là renvoient également au caractère de nos ancêtres, à une des caractéristiques de nos ancêtres qui étaient quand même des guerriers, qui se sont toujours battus, qui n'ont jamais accepté la domination de quelqu'un. Et cet arc, cette flèche-là, montre les armes dont ils ont fait usage dans le temps. C'est juste symbolique pour garantir leur liberté. Le soleil levant, qui est peint en jaune, nous replace au lendemain de notre accession à l'indépendance nationale pour dire que c'est un nouveau soleil qui se lève. L'oiseau Douga. Douga, c'est le vautour. Le vautour incarne la majesté. Le vautour incarne le fait de survoler et d'être au-dessus de la mêlée, si vous voulez.
Et si on revenait au drapeau vert, jaune, rouge? Je ne sais pas si c'est bien prononcé.
Vous faites bien d'attirer l'attention sur le fait que vous ne l'avez pas bien prononcé. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de jaune dans le drapeau malien. La loi qui crée le drapeau malien parle de couleurs vert, or et rouge. La couleur verte renvoie aux prairies vertes, aux champs verts. Ça veut dire qu'il y a à manger. On est dans la prospérité. Maintenant, le jaune. Je vous ai répété. Mais en réalité, ce n'est pas le jaune, hein, c'est l'or. Et l'or renvoie aux richesses immenses dont regorgent le sol et le sous-sol et quelquefois les cours de rivière du Mali. Pas aujourd'hui, depuis très longtemps. Le rouge a beaucoup de sens. Mais moi, le sens, j'allais dire, dont je parle assez souvent, c'est que le rouge symbolise le sang du Malien. Le sang de nos grands-parents, le sang de nos arrière-grands-parents qui se sont battus contre l'ennemi, contre tous les ennemis, pour nous assurer enfin l'indépendance.